Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Bonsoir. Les carnets du soir vous proposent ce séjour au Mexique, dont le cœur fut le sanctuaire Notre-Dame de Guadalupe. Je vous invite à découvrir avec moi ce lieu et les différentes facettes de ce parcours. Alors, Pedro est toujours bonne humeur, Pedro. Il va nous raconter, lui, qu'il a un fils. Et semble-t-il, le fils est très, très, très turbulent. Alors, on le taquine un peu en disant, bon, un fils, mais ici, au Mexique, les familles ont plusieurs enfants. Alors là, il dit, non, jamais. Mon fils me demande tellement, et pas question qu'il y en ait un autre. Alors, nous rions, et Pedro est de bonne humeur, il va retrouver son fils, son épouse, et c'est ainsi que, je pense qu'on peut-être on va le revoir, je crois que oui. Mais tout au moins, c'est le premier contact que nous avons, oui, on va le revoir. Et lorsque mon collègue est parti avec Maria Lourdes pour chercher des médicaments, alors il était avec moi dans l'auto, et il est rieur, vous savez, ce tempérament rieur. Alors, il imite un peu mon collègue qui était toujours en train de se moucher. Alors, nous rions, c'est drôle. Alors, lorsqu'ils reviennent de la pharmacie dans l'auto, alors on continue à être heureux, et ils nous ramènent à la communauté des prêtres pour le soir, pour le repas et pour la prière en communauté telle que je vous ai parlé et qui se termine par la récitation du credo. Ainsi va se terminer cette autre journée, une journée de visite, une journée où on prend le pouls de la ville. Et le pouls de la ville, eh bien moi je l'ai touché à travers des personnes concrètes. Ce jeune travailleur qui m'a dit qu'il aimait son travail, un travail modeste, humble. Ce chauffeur de taxi, avec sa petite fille Daniela de 5 mois. Aussi, Pedro avec ce tempérament joyeux. Maria Lourdes qui nous accueille avec tant de simplicité, de bonheur. Elle est tellement contente parce que, bon, son fils, j'ai compris que son fils va à l'école. L'école dont s'occupe le Père Christian. Alors c'est par toujours le Père Christian, qui est l'aumônier de l'école, qu'on a ces rencontres. C'est lui qui a organisé tout cela. C'est lui qui a demandé probablement à Maria Lourdes, qui a ce chauffeur pour son commerce, pourriez-vous aller chercher les pères du Québec et les amener pour qu'ils visitent la ville. Et à la fin, bon, il est allé chercher sa patronne, elle fait partie du convoi, et c'est là qu'on la rencontre. C'est vraiment une belle journée. Une journée où l'on rencontre les gens. Nous arrivons maintenant au jeudi, une autre journée. Mais là, vous savez, ça fait quelques jours que nous sommes dans cette grande ville de Mexico, avec ses 22 millions d'habitants sur 60 kilomètres de distance. En altitude, 2200 mètres d'altitude aussi, alors nos corps, mon corps, le mien, celui de mon collègue aussi, mon collègue a toujours la grippe, mais moi, je commence à développer le phénomène des allergies, donc la pollution, évidemment. Alors, ça commence doucement. Mais vous allez voir jusqu'où cette réalité va nous conduire. C'est une acclimatation qui reste difficile, mais on ne le voit pas tout de suite. On ne voit pas ça le premier jour, ni le deuxième. Et là, on arrive au quatrième jour et on sent que quelque chose est en train de se passer sur le plan physique, sur le plan de la respiration, Le souffle est plus court, les poumons semblent engagés, les éternuements, le picotement des yeux. Alors ce sont des phénomènes qui sont en train de s'amplifier. Alors le matin, c'est toujours le petit déjeuner. On voit les prêtres qui habitent cette maison. Et chacun a sa mission, vous savez. Il y en a qui vont aux établissements d'enseignement, d'autres qui ont la mission justement de préparer des groupes, d'autres s'en vont dans des milieux plus défavorisés. Donc chacun se voit le matin lors du petit déjeuner et on part pour la mission. Donc c'est cela, le cœur battant de la maison, c'est de pouvoir se reposer, prier, se restaurer et ensuite on part parce que on nous attend. Alors mon collègue et moi, nous célébrons la messe et lors de cette célébration, l'Évangile nous parle du dépouillement des disciples et accueil de leur ministère. Évidemment, Jésus envoie les disciples deux par deux et leur dit de ne rien emporter. Donc un grand dépouillement. Ils ne partent pas avec une banque sur le dos, avec plein de bonbons à donner. Non, ils partent avec ce qu'ils sont. Et ce qu'ils sont, c'est le trésor qui les habite. Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Et là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il les envoie annoncer la bonne nouvelle, le règne de Dieu, l'amour de Dieu, en leur donnant aussi la possibilité de faire du bien et d'aller loin dans le bien qu'ils vont faire, de faire des guérisons. Et voilà, ils partent et c'est un dépouillement, mais ce dépouillement va favoriser l'accueil de leur ministère. N'ayant pas de maison sur le dos, eh bien les gens vont ouvrir leur cœur et vont leur offrir l'hospitalité. N'ayant pas un pique-nique sur le ventre, eh bien les gens vont leur offrir de la nourriture, ils vont les nourrir. N'ayant pas une tenue vestimentaire élaborée, eh bien ils vont leur donner ce qu'ils ont pour se réchauffer, pour s'habiller, une couverture pour passer la nuit. Ce qu'on n'a pas, on le reçoit. Et c'est cela qu'on ne comprend pas. On a souvent l'impression qu'il faut sortir avec beaucoup d'effectifs, qu'il faut avoir beaucoup de matériel pour pouvoir justement arriver à communiquer ce qu'on doit communiquer. Et c'est tout le contraire. C'est la simplicité, c'est le dépouillement qui ouvre les cœurs, qui ouvre les portes, les maisons, qui ouvre à l'hospitalité, qui donne à manger, c'est cela. Eh bien, nous avons médité sur cet évangile qui peut encore inspirer notre vie, à chacun, la vôtre comme la mienne. Mais évidemment, les ministres du Seigneur, les apôtres, les disciples qui ont charge d'annoncer, eh bien, Jésus le dira, l'ouvrier a besoin d'un salaire, alors c'est normal qu'on lui donne son salaire. Et le salaire, eh bien, c'est l'hospitalité, c'est la nourriture, c'est de pouvoir se laver, c'est de pouvoir se restaurer, de pouvoir se reposer, d'être accueilli comme un envoyé de Dieu. Les carnets du soir se poursuivent avec une lecture en continu du livre « L'impossible », parole énigmatique pour cette nuit noire, dont je suis l'auteur. Petit Jean avait laissé ses bêtes pour venir en aide à ses parents. Le toit de leur maison avait été fortement endommagé et la cheminée était craquelée. Étrangement, sa mère était restée dans son lit, tremblante et effrayée. Avec son père, Petit Jean travaillait sur le toit. Ils étaient devenus semblables, de même taille, avec une misère commune. Petit Jean sifflait tout en travaillant, puis, brusquement, il s'arrêta et demanda « Papa, où es-tu ?» Son père le regarda, étonné, et dit «
Je suis là. Tu ne vois pas ?
Je vois, fit Petit Jean. Il savait que son père n'était nulle part, et qu'il jetait en lui des paroles de colère. Partout, du côté du ciel comme du côté de la terre, du côté des gens comme du côté des bêtes, son père maudissait sur son toit. Il devait y avoir à tout cela un coupable. Se mettant à vociférer, il criait
« Maudite vie ! Maudite vie de chien !»
Petit Jean se taisait. Le père continuait
« Maudit village ! Maudit monde !»
Petit Jean eut un regard vers l'impossible, et devant son père, qui maudissait toujours, il se leva. Leurs regards se croisèrent un instant, et Petit Jean lui dit « Papa, je suis là ?» Le dimanche qui suivit l'ouragan, la petite église Sant'Antonio était pleine à craquer. Les gens en étaient ressortis dérangés. En effet, le curé avait fait un sobre commentaire de la parole du jour. « Dieu habille les lys des champs mieux que les couturiers du roi Salomon, qui s'inquiètent de leur fil d'or. » Puis, « Regardez les oiseaux du ciel. » Ils ne sèment aucun grain et n'en moissonnent pas davantage. Eh bien, Dieu leur donne chaque jour leur ration de nourriture et la gratuite goutte d'eau. » Rapidement, le curé avait saisi l'inconfort de l'assemblée, pétri de révolte, puis était descendu de la hauteur de ses paroles pour se perdre dans la prière. La vérité, parfois, s'était-il dit intérieurement, ne va pas très loin. Comme il en faut des heures de réflexion pour déblayer son chemin. Comme il s'apprêtait à renvoyer la foule après la dernière bénédiction, il ajouta ces quelques mots. « Un jour, il y a de cela très longtemps, j'étais dévoré par les tâches de mon ministère, et voulant sauver du temps, je regroupai les fiancés de l'été afin qu'ensemble nous puissions répondre par écrit aux questions d'usage relatives à leur mariage. Tous les fiancés acquiescèrent à ma demande, sauf un couple qui refusa radicalement et quitta poliment, mais visiblement mal à l'aise. Je restai déçu de leur attitude. Quelques jours plus tard, ceux-ci revinrent me rencontrer et me dire ceci. « Nous ne savons pas écrire. » L'assemblée restait immobile, attendant la suite, ne comprenant pas trop où le curé voulait en venir. Puis, ce dernier ajouta, en les regardant tous, « Ne nous jugeons pas. » Les gens restèrent bouche bée, et en souriant, le curé leur rappela, « Il faudrait que les cloches chantent encore nos naissances, nos amours et nos envolées. » Tous avaient compris le message final. Mais ce dimanche-là, après la messe, personne ne s'était attardé bien longtemps sur le perron de l'église. C'était les Carnets du soir avec Denis Veilleux qui vous parle. Réalisation technique, Yannick Caron.